Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Jonathan Duong, l'émission mensuelle avec le monde diplomatique.
Flight number 2, arriving from New York.
You want to destroy some system, first defund it, then it won't work, people will be angry, they want something else. That's a standard technique for privatizing some system.
Si vous voulez détruire une structure, d'abord réduisez son financement. Ça ne marchera plus, les gens seront en colère et ils n'en voudront plus. C'est une technique basique pour privatiser une structure. Celui qui parlait ainsi il y a quelques années, c'est Noam Chomsky. Et alors, on a l'impression que c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les cheminots et la SNCF. Des années de sous-financement, de mauvaise dotation, de décisions stratégiques contestables ont rendu la réforme évidemment nécessaire, voire même impérative. Impérative, c'est le mot de la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Mais il n'y a pas que à la SNCF, ça craque de partout. Il y a la justice, les hôpitaux, les EHPAD, les universités. Et vous rappelez, Pierre Imbert, que c'est une philosophie qui est à l'œuvre, que ce sont les services publics qui sont attaqués de manière globale et que c'est donc l'intérêt général qu'il faut défendre. Pierre Imbert.
D'une certaine manière, on est un peu replongé dans une forme de rituel. C'est-à-dire, on a un gouvernement et une ministre qui proposent une réforme nécessaire parce que ça ne fonctionne plus, et puis les médias qui, évidemment, vont être les télégraphistes de ce discours gouvernemental en expliquant à quel point la réforme est nécessaire. Et là, bon, ce sont surtout les chaînes d'information en continu qui jouent un rôle vraiment crucial en multipliant les débats parfois baroques sur le thème « est-ce que la grève est mauvaise pour la santé ?» etc., etc. Donc voilà, les journalistes sont sur la brèche. Et ils jouent une place très importante dans cette espèce de rituel, hein, de l'annonce de la réforme, de sa légitimation. Ensuite, il y a le sondage qui va opposer les salariés aux uns aux autres en disant « voilà, les salariés du privé souhaitent que le statut des cheminots soit remis en cause, etc. Et... »
CNews, 4 avril 2018.
La grève, ça provoque du stress, il faut le dire. On avait envie d'en parler avec vous ce matin, docteur Brigitte Millot. Quelles sont les répercussions précises de ces mouvements sociaux sur la santé, ce qu'on vit en ce moment ?
Elles sont nombreuses. Mmh. Ça devient délétère lorsque le stress devient chronique. Et là, on est typiquement dans ce cas de figure, vers une chronicisation des problèmes. Et en plus, là, ce stress, il est négatif à tout point de vue. Il est mêlé de peur, la peur d'arriver en retard au travail, la peur de ne pas rentrer chez soi. Et puis, il y a ce sentiment d'impuissance, le fait de subir cette grève sans savoir du tout quoi faire. Et donc ça, c'est très mauvais pour la santé. Alors ça va entraîner une baisse de l'immunité, des troubles de l'humeur, ça peut aller jusqu'à des dépressions. Donc au lieu de subir, il va falloir agir. Il faut apprendre à respirer. Respirer, c'est inspirer par le nez et souffler longtemps par la bouche, le faire plusieurs fois.
Alors l'une des particularités de ce rituel, c'est qu'il aménage une place aussi pour les opposants. L'idée, je pense, que le gouvernement a développée, c'est qu'il fallait cantonner les opposants à la réforme au rôle de ceux qui disent « on veut défendre les services publics, on veut défendre la SNCF, on veut défendre le statut des cheminots ».
Alors que les services publics, tels qu'ils sont maintenant, c'est-à-dire délabrés, effectivement sont peu défendable, et on le retrouve ça dans la bouche des partisans de la réforme en disant « mais attendez, comment vous pouvez défendre ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux, la justice ?» Vous voyez que ça ne fonctionne pas, et force est de constater, et les fonctionnaires sont les premiers à le dire, que dans l'état actuel des choses, ça ne fonctionne pas.
De fait, les opposants à cette réforme, et les opposants à tous les types de réformes, se retrouvent dans une position qui est presque un petit peu embarrassante, puisque on doit protéger et défendre une institution, un service, dont chacun, en fait, déplore le mauvais fonctionnement quotidien. Donc voilà, est-ce qu'il faut défendre chacun des services publics au moment où ils sont attaqués, ou est-ce qu'il faut pousser en avant une autre vue, une autre vision du service public, et un service qui serait véritablement au service de la population et aussi des agents qui fournissent ces services, comme ils avaient été d'ailleurs conçus à l'origine.
Et un service public au service du public, mais au service surtout des plus faibles et des moins favorisés. Parce que quand on est assez privilégié, quand on est aisé, on a les moyens de se passer du service public. On peut prendre sa voiture, on peut aller se faire soigner dans une clinique privée. Par contre, quand on est plus pauvre, là, on n'a pas le choix et on a besoin des services publics.
Ouais, exactement, et je crois que l'enjeu de la réforme, il est là, c'est que on ne parle pas, au fond, de la SNCF, ni du statut des cheminots. Ce qui est en jeu dans cette réforme, c'est l'opposition entre deux visions du monde. Entre deux visions du monde absolument opposées, antagoniques. Et je crois que la première, je ne vais pas faire un dessin, on la connaît, hein, c'est celle qui est portée par Macron, par Muriel Pénicaud, et leur réforme, c'est celle qui est centrée sur un individu autonome, créatif, qui va déployer ses talents, qui devient entrepreneur ou cadre supérieur, qui va s'élever dans la société pour, comme dirait Macron, devenir quelqu'un. Et je crois que dans cette vision du monde, les services publics représentent avant tout une dépense, un coût, une charge, un fardeau inutile et même une espèce de concession à l'égalité qui entrave la liberté individuelle. Et c'est un paradoxe, parce que le citoyen idéal de cette vision du monde, hein, ce cadre sub qui va créer sa start-up, etc., devenir quelqu'un, lui, s'est servi des services publics. C'est un diplômé du supérieur, la plupart du temps, à qui la collectivité a payé de longues et coûteuses études, hein, mais qui croit fermement s'être construit tout seul, grâce à son talent, à force de volonté, etc., et qui, trivialement, retire l'échelle aussitôt qu'il a fini d'y grimper. Donc ça, c'est cette première vision du monde qui se déploie et qui, à mon avis, sous-tend l'esprit des différentes réformes. Mais c'est pas uniquement celle de Macron et de Pénicaud, c'est les réformes depuis le milieu des années 80. Et à cette vision du monde, mon sentiment est qu'il faut en opposer une autre qui part d'un point de vue diamétralement différent, c'est l'idée selon laquelle l'égalité n'est pas une entrave à la liberté, mais tout au contraire, c'est la condition de possibilité de la liberté. C'est-à-dire, on est libre qu'à partir du moment où la collectivité prend en charge les besoins fondamentaux que sont eh bien, la santé, l'éducation, le transport, mais aussi devrait être le logement, l'énergie, les communications. Et je crois que le service public, ça devrait être ça. C'est-à-dire, on socialise une partie significative de la richesse pour assurer à tous et à toutes une base matérielle et aussi une base intellectuelle par l'éducation, l'enseignement supérieur, sur laquelle eh bien, chacun peut ensuite s'épanouir. C'est ça que devrait être, à mon avis, le service public. Alors, naturellement, le fondateur de start-up qui est cher à Macron va trouver tout à fait scandaleux que les cotisations ou que les impôts, ce qu'il appelle les charges, lui échappent, lui soient en quelque sorte retirées et entravent sa liberté à lui d'individu de devenir, dans le vocabulaire du président de la République, quelqu'un.
Alors, je dois vous faire une confidence.
Emmanuel Macron.
Il y a 3 ans, à peu près.
29 juin 2017.
J'avais promis à ma femme que j'arrêtais totalement la vie politique et que j'allais créer une entreprise. Que j'allais être entrepreneur. Donc j'ai essayé, j'ai commencé et puis progressivement, j'ai pivoté le business model.
Inauguration de Station F à Paris.
Je ne suis pas en train de résumer la vie de la République, la politique française et ce qu'est une élection présidentielle à la vie d'une entreprise. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est cet esprit entrepreneurial. Et je veux vraiment ici saluer l'intelligence et la générosité de Xavier Niel. Il a compris que les gens de sa génération qui ont réussi ont en même temps un devoir. Et ce devoir-là, ce n'est pas l'État qui l'imposera par des règles, des impôts, des normes. C'est à vous de le porter. Et donc ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Donc voilà, on a deux visions du monde qui sont opposées et qui sont promues par des groupes sociaux opposés, dont les intérêts sont antagoniques. Et Bourdieu n'avait pas tort en décembre 95, je crois que c'était le 12 décembre 95, Gare de Lyon, lorsqu'il disait que, à travers la réforme de la sécurité sociale à l'époque, il s'agissait d'un enjeu de civilisation. Donc voilà, face à la réforme de Macron, à mon avis, il ne s'agit pas de dire on défend les services publics contre une énième attaque, tout en sachant au fond de soi hein, que même si on gagne, eh bien, les services publics en question seront toujours un peu mal en point. Ce rôle défensif que le gouvernement aimerait nous voir jouer, je crois que c'est l'autoroute vers la défaite. C'est celui, de fait, qu'on a emprunté depuis une trentaine d'années. Et mon sentiment, mais bon, c'est facile à dire, hein, c'est qu'il s'agit au contraire de profiter de cette mobilisation qui est forte et qu'on voit se développer à l'université, qu'on voit se développer dans des secteurs très différents, dans le privé, à Carrefour, dans les EHPAD, etc., dans le milieu hospitalier. C'est de profiter de cette mobilisation pour exiger de vrais services publics. Des services publics qui seraient à la fois efficaces, mais populaires, et dotés de moyens. Donc il s'agit quoi de tout simplement continuer et moderniser ce qui a été entamé à la libération entre 1944 et 1946.
Effectivement, tu remarques à juste titre que les dernières mobilisations victorieuses ont été défensives. Victorieuses ou non d'ailleurs, hein, mais 2016, 2010, 97, ça a été des luttes défensives. Mais il y a quand même un grand mouvement social qui a été offensif, c'était il y a 50 ans, c'était en mai 68, où là, le mouvement social d'ampleur a débouché sur des conquêtes sociales importantes, avec une place plus importante du salarié dans l'entreprise, avec une augmentation des salaires. Voilà, et ça, c'est un peu la dernière grande victoire du mouvement social. Et ce que tu proposes, c'est de passer à l'offensif, et tu as un plan de bataille en trois points, Pierre.
Un plan de bataille, peut-être pas, mais je suis convaincu que on ne peut plus tenir cette position constamment défensive, parce que les bases sur lesquelles on s'appuie pour se défendre s'érodent au fur et à mesure, et maintenant ça fait 30 ans, donc elles sont déjà sérieusement fissurées. Et il me semble que pour mobiliser des gens qui ne se sentent pas concernés par ça, et c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, le discours médiatique, l'atmosphère intellectuelle, la sélection à l'université, etc. Tout est fait pour empêcher les gens de se mobiliser. Je crois que l'idée, c'est d'avoir un projet de société qui soit mobilisateur, qui soit désirable, et qu'on puisse opposer à la vision strictement comptable et strictement individuelle que Macron, mais avant lui ses prédécesseurs, et eux mettent en avant, et qui, si on en croit les derniers référendums, commence à irriter sérieusement les gens, et pas seulement à l'irriter, quoi, à les rendre réellement malheureux à la fois intellectuellement, mais physiquement. Donc voilà, l'idée pour pousser en avant le service public, c'est déjà de se dire que c'est quelque chose qui nous est dû. Là, parfois, on a le sentiment qu'on défend quelque chose en attendant de l'État une espèce de concession.
Oui, on fait l'aumône. On réclame, on demande, s'il vous plaît, un peu de service public, alors qu'effectivement, ça nous est dû.
Ben voilà, d'abord, c'est un droit. Ils sont inscrits parfois dans la Constitution, d'autres fois dans la loi, mais la sécurité économique et sociale, l'éducation, la retraite, la santé, même les loisirs, le transport, l'accès à l'énergie, et même toutes les grandes infrastructures que ces services impliquent, tout ça, ce sont des droits. Donc on n'a pas à mendier à ceux qui font profession de nous représenter qu'ils nous les concèdent, c'est qu'ils nous les doivent. Ils nous les doivent, et s'ils ne sont pas fournis de manière excellente, ça veut dire qu'ils ne font pas leur travail, et donc que nous devons leur opposer notre raison. Donc voilà, c'est une obligation, et d'ailleurs c'est assez marrant, si vous regardez le préambule de la Constitution de 1946, qui est encore en vigueur aujourd'hui, on peut lire à l'article 9, je cite, « Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, monopole de fait, par exemple Google, 90% de parts de marché, ou Facebook, bon, ou un monopole de fait, je continue, doit devenir la propriété de la collectivité. » Voilà, ça c'est dans la Constitution, il faut quand même le rappeler quand on parle de privatiser les aéroports, les services publics.
Les privatisations sont contraires à la Constitution.
Eh bien, dans les conditions qui sont exprimées cet article, c'est-à-dire tout bien ou toute entreprise dont l'exploitation a le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait. Bon, ben, pour les aéroports, c'est le cas. Pour la SNCF, c'est le cas. Ça pourrait être le cas pour un moteur de recherche. Ça pourrait être le cas pour un service public des données personnelles, etc., etc. Donc voilà, et il me semble que pour pousser cette idée d'un service public désirable, il faudrait en premier lieu s'appuyer sur ce sentiment qui, à mon sens, est presque universellement répandu, c'est que on n'a plus les moyens de bien faire son travail. Et opposer à ce sentiment, l'idée qu'un service public doit donner aux gens les moyens de bien faire leur travail. Et c'est l'un des grands paradoxes, c'est que si aujourd'hui les services publics existent encore malgré les coups de gourdin que leur assènent tous les gouvernements, c'est parce que les agents des services publics, et souvent les agents eux, parce que sont pour beaucoup dans les services de soins, d'éducation des femmes, se plient en quatre pour fournir ces services dans les conditions les moins pires, alors même qu'elles sont dépossédées des moyens de bien faire son travail. Et ce sentiment d'être privé des moyens de bien faire son travail, il n'est pas seulement présent à la Poste, à l'Éducation nationale, dans les hôpitaux, dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, mais il est présent dans la plupart des entreprises privées. Et les ouvriers l'ont éprouvé dès les années 80, au moment de la désindustrialisation exécutée et mise en musique par le gouvernement socialiste. Les employés, les professions intermédiaires l'ont éprouvé dans les années 90, après la crise de 1993, lorsqu'il y a eu un nombre très important d'entre eux qui ont été d'une part mis au chômage, mais d'autre part que les budgets étaient réduits et que les gens n'avaient plus le temps de bien faire leur boulot. C'est une condition tout à fait insuffisante, mais absolument nécessaire pour s'épanouir, c'est que avoir le temps de bien faire son boulot. Et évidemment, une mobilisation en faveur d'un service public de qualité, populaire, pour tous, qui soit efficace et qui s'appuie sur l'idée de donner aux gens les moyens de bien faire leur boulot serait d'autant plus populaire du côté du privé que chacun dans le privé sait ce que c'est que de travailler dans des conditions contraires. Donc ça me paraît un premier principe intéressant. Le deuxième principe, c'est qu'un service public, il doit être avant tout ancré chez les gens qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les classes populaires, les ouvriers, les employés, les petites professions intermédiaires qui constituent une majorité de la population et qui n'habitent pas dans les centres-villes des grandes métropoles. Elles sont en banlieue, elles sont dans les campagnes, elles sont dans des villes moyennes.
C'est justement là où on supprime les services publics, où on supprime les bureaux de poste, où on supprime des classes dans les écoles, où on supprime des petites lignes de train qui ne sont pas rentables.
Absolument, et c'est là, à mon sens, qu'il faudrait pousser la mise en œuvre de ce service public d'intérêt général qu'on appelle de nos voeux, qui servirait tout le monde. Il faudrait que ce soit plus à Toul ou à Vierzon qu'on expérimente un service public qui repose sur le numérique, sur les données, pour régler par exemple les transports publics, plutôt qu'à Paris, dans le 19e ou le 11e arrondissement, où les classes moyennes cultivées, ou la bourgeoisie tout simplement, a désormais, en quelque sorte, revendiqué le monopole de la modernité. Longtemps, ça a été les classes populaires qui symbolisaient la modernité.
Maintenant, elles sont conservatrices. Elles sont archaïques.
On les décrit comme conservatrices et archaïques après les avoir dépossédées de tous les moyens d'exprimer un projet politique. Mais quand les classes populaires ont construit la sécurité sociale, qui était un projet extrêmement moderne, un projet d'avenir, tellement d'avenir qu'il fonctionne toujours aujourd'hui, de la même manière que les retraites, elles étaient à l'avant-garde. Et mon sentiment, c'est que qu'il s'agisse des banlieues, qu'il s'agisse des petites villes moyennes qui sont, bah, comme tu dis, privées des services publics élémentaires, hein, en matière de santé, par exemple, bon, c'est frappant. Eh bien, c'est là qu'un service public universel de qualité, réellement populaire, devrait s'implanter en priorité.
Donc ça, c'était le deuxième point de votre programme, Pierre, la répartition géographique des services publics. Et troisième point, c'est la propriété collective des services publics.
Et oui, et là, on a un problème. Et là, on a un problème parce que traditionnellement, on se dit que service public, c'est propriété publique, et propriété publique, c'est propriété d'État. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'État dans lequel il est, avec la composition sociale qui est la sienne, l'État est capable, encore aujourd'hui, de financer des services publics de qualité et un service public qui aurait les propriétés qu'on vient de décrire. Et est-ce que c'est souhaitable ? Alors, l'éducation nationale, c'est un service public qui est dont les infrastructures sont de propriété publique. Mais la sécurité sociale, par exemple, ou les retraites, ce sont des services d'utilité publique, des institutions d'utilité publique, mais qui ne sont pas propriété de l'État. Et c'est une grande différence. Et là, je reprends presque entièrement les travaux de Bernard Friot, hein, l'économiste et sociologue que les auditeurs de La Bastille J'y suis connaissent.
Le capitalisme tire sa puissance,
Bernard Friot,
du fait qu'il décide de la production de valeurs économiques.
Université Paris 1 Tolbiac.
Tant qu'il a les moyens de le décider, il peut faire tous les chantages qu'il veut.
3 avril 2018.
Et tant que nous ne nous attaquons pas à la capacité qu'a le capital de décider de ce qui a valeur, de l'organiser, de le produire, de le répartir, toutes nos batailles sont perdues. Ce qu'ont su faire les travailleurs organisés lorsqu'ils ont été victorieux, c'est de construire des institutions macroéconomiques alternatives au statut capitaliste du producteur et au régime capitaliste de propriété. Nous n'avons pas besoin de chercher midi à 14h parce que les prémices de ces constructions existent. Elles ne sont pas du tout nulles. Il y a déjà là de l'alternative au capitalisme sur lequel tous nos combats doivent s'appuyer pour le généraliser.
Ce que raconte Friot en disant que la sécurité sociale doit constituer un modèle, enfin la sécurité sociale pas telle qu'elle est, hein, telle qu'elle aurait dû être si le projet des gens qui l'ont mise en œuvre à la libération avait été conduit à son terme, devrait constituer un modèle pour l'ensemble de la société. Et pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que la sécurité sociale, elle n'est contrôlée ni par le marché, ni par l'État, en théorie. C'est-à-dire telle qu'on aimerait qu'elle le soit. Ni par le marché, bah, pour des raisons très simples, c'est que la cotisation sociale, ça ne marche pas par le marché, elle est perçue dans l'entreprise, et puis ensuite elle est directement transformée soit en salaire pour les soignants, ou en retraite pour les retraités, ou en pension, etc. Soit en infrastructure. Hein, tout le système hospitalo-universitaire français a été construit grâce à la cotisation sociale, donc c'est un budget qui est actuellement colossal. Aujourd'hui encore, c'est un tiers de la richesse qui est produit chaque année en France, qui passe à la sécurité sociale, hein, soit sous forme de cotisation, soit de CSG. Donc c'est absolument colossal. Donc ça, un, ça ne passe pas par le marché. Et deux, ça ne passe pas directement par l'espèce de bastion de l'idéologie dominante qui est le ministère de l'économie et des finances. Ça ne passe pas par Bercy. C'est-à-dire que les flux d'argent qui sont perçus à travers la cotisation sociale, ils vont dans les caisses de sécu ou les caisses de retraite. Ils ne vont pas par Bercy. D'ailleurs, les hauts fonctionnaires du Trésor enragent que des sommes aussi considérables que les centaines de milliards collectés chaque année par la Sécurité sociale leur échappent. Alors, c'est une des questions. Est-ce qu'un service public dont on aimerait qu'il donne aux gens les moyens de bien faire leur travail, qui s'adresse prioritairement aux classes populaires, qui s'implante là où les gens en ont le plus besoin, à la fois pour rendre service, mais aussi pour constituer ces classes populaires comme une avant-garde de ce que, voilà, de la société à laquelle on aspire. Est-ce qu'il faut d'abord conquérir l'État pour faire ça? Mais auquel cas la question se pose plus. Ou est-ce qu'il faut, comme le suggère Friot, construire des institutions, comme l'ont fait les communistes, les syndicalistes de la CGT après la guerre, construire des institutions autonomes du salariat, où règne une forme d'autogestion. Et là, c'est intéressant parce que, à l'origine, les caisses de sécurité sociale, c'est-à-dire les organismes qui géraient tout cet argent, ces centaines de milliards de francs à l'époque, eh bien, ils étaient gérés à 3/4 par des salariés et 1/4 par les patrons. Alors évidemment, il y avait des divisions entre les syndicats, etc., mais 3/4, 1/4, c'est pas mal comme base de départ.
Et c'est là où c'est pas utopique, c'est que ça a été le cas à la création de la sécurité sociale après la guerre. C'était géré quasiment exclusivement par les salariés et financé par les salariés via les cotisations sociales.
Exactement, c'était pas exclusivement par les salariés, puisqu'il y avait un quart de patrons dans les conseils d'administration, mais pour ce qui concerne les services publics, il y aurait plutôt des usagers. Ce serait 3/4 de salariés, et puis, je sais pas, il faut que les usagers voient au chapitre aussi, parce que ce sont les services publics, et à la différence de ce qu'ont pu être effectivement les services publics à un moment donné, c'est-à-dire très bureaucratisés, où quand vous alliez à un guichet, vous vous retrouviez parfois face à quelqu'un qui n'était pas nécessairement très coopératif.
C'est à quel sujet ?
Et nous désirons obtenir le laissez-passer A38.
On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2.
Ici, à côté ?
Non, ça c'est le guichet 8. Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. Consultez l'huissier.
Mais c'est... Mais... Le guichet 2 !
Je vous ai déjà dit que le port est au bord de la mer !
Mais je ne veux pas le port ! Je veux...
Allons, allons, un peu de calme. Il y a des gens qui travaillent ici.
Des services publics, ils doivent être efficaces. C'est un service qui est dû aux gens. Donc, ils ne sont pas faits uniquement pour les agents qui les rendent. Ils sont faits par des agents qui ont bien, le temps de bien faire leur travail, qui sont dévoués la plupart du temps, mais pour, justement, pouvoir fournir à l'ensemble de la population les conditions de vie, de base, les infrastructures, pour pouvoir s'épanouir après au plan individuel.
Mais allons au bout de cette histoire de la sécurité sociale, parce que c'est intéressant quand même. C'est-à-dire de 45 à 67, les trois quarts des administrateurs de la Sécu sont des salariés. Mais en 67, De Gaulle inscrit le paritarisme dans la gestion de la sécurité sociale. Et à partir de 67, ça va être moitié-moitié, moitié salarié, moitié patronat. Déjà, on s'éloigne de l'utopie qui a présidé la fondation de la sécurité sociale. Et cette gestion paritaire a pas duré, elle dure quelques années, mais elle dure jusqu'en 96. Et en 96, il y a le plan Juppé qui réforme la sécurité sociale. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier. On se souvient des mobilisations de 95 comme une grande victoire. On a fait reculer le gouvernement sur les retraites, sur les cheminots, sur la fonction publique, mais pas sur la sécu. Et Juppé a réussi à réformer la sécu et à déposséder encore un peu plus les partenaires sociaux et les salariés de la gestion des caisses de la sécurité sociale, qui a été reprise en main quand même par l'État et notamment par l'Assemblée nationale via la loi de financement de la sécurité sociale. Donc c'est aussi une utopie de 45 qui a été grignotée petit à petit en 67 et puis en 96 par Juppé.
En effet, d'une part, ça a été dégradé et d'autre part, l'État a changé. L'État a beaucoup changé. Je crois qu'on ne mesure pas à quel point le corps des inspecteurs des finances, les hauts fonctionnaires du Trésor et Bercy exercent sur la plupart des décisions publiques qui sont prises dans ce pays, et y compris lorsqu'il s'agit de négociations européennes, de décisions politiques qui concernent la politique étrangère, exercent une domination mais sans partage. Grosso modo, ce sont des gens qui pensent avec un tableur Excel. Et on ne se figure pas à quel point les gens qui décident du sort des autres dans ce pays ne vivent pas sur la même planète que le reste de la population. C'est-à-dire que quand une décision est prise, à qui pensent les inspecteurs des finances et ces gens du Trésor ? Ils pensent aux investisseurs internationaux, ils pensent au taux auquel la France va pouvoir emprunter sur les marchés, et quand ils réussissent à lever un emprunt sur les marchés à un taux extrêmement faible, voire négatif, comme ça s'est passé la semaine dernière, eh bien, ils sont heureux, ils ont l'impression d'avoir bien fait leur travail. Et ces taux bas d'emprunt, eh bien, on les obtient comment ? En faisant des réformes en France, en mettant en œuvre la loi travail, c'est-à-dire en détruisant le droit du travail, en faisant les réformes dont Pénicaud et Macron s'enorgueillissent, en diminuant la part de la richesse qui est socialisée chaque année pour que tout le monde puisse avoir ses conditions matérielles et intellectuelles d'existence sur laquelle on peut s'épanouir. Donc voilà, la manière dont c'est corps qui dirige le bunker de l'orthodoxie qu'est Bercy, pense. Alors là, il y a deux solutions. Soit on fait sauter le bunker, mais je crois que pour l'instant, on n'en a pas les moyens. Et qu'on regarde même les grands moments de mobilisation que sont 1936 ou 1968, ça a été des moments où le rapport entre le capital et le travail était peut-être le moins défavorable que d'habitude au travail. Eh bien, ces mobilisations n'ont pas pris l'État. Et à l'époque, l'économie était moins importante dans la manière de faire de la politique. La politique était peut-être plus importante que l'économie. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'économie a barre sur les décisions politiques. Et l'économie, aujourd'hui, en France, c'est ce ministère de l'économie et des finances.
Comment pourrais-je dire avec humour ? Le ministère des finances n'est pas l'endroit où les idées novatrices jaillissent le plus spontanément.
Une pieuvre nommée Bercy.
La révolution n'y est pas permanente.
Documentaire de Jean Crépu.
En 1981, la gauche arrive au pouvoir. Laurent Fabius est nommé ministre délégué au budget. Il découvre la pensée Bercy à travers le dossier que lui a préparé l'administration.
Je me rappellerai toute ma vie, ce qui m'a montré que j'arrivais dans un univers qui avait une mentalité un peu particulière. L'ensemble de sous-chemises, c'était risques principaux. Hein, c'est pour le ministre du budget. Risques principaux. Et il y avait une sous-chemise. Risque numéro un, augmentation de l'allocation pour les handicapés. Donc, le ministère du budget considérait que le risque numéro un qui était pour la France et pour ses finances publiques, c'était d'augmenter l'allocation pour les handicapés. Donc évidemment, c'était pas tout à fait la même psychologie que le jeune militant ministre socialiste qui arrivait précisément pour faire une politique de justice sociale.
Soit ce bunker saute, mais alors il faut un rapport de force sociale qui serait bien qu'il puisse se créer, mais à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il existe. Soit essayer de pousser en avant, de revendiquer un projet de société qui implique des institutions qui ont existé, qui existent déjà. C'est la force de ce que raconte Bernard Friot. Il y a un déjà là en matière sociale qui est très puissant, qui est en train d'être abîmé par les réformes dont tu parlais tout à l'heure, mais qui existe déjà, et s'appuyer dessus pour le pousser en avant en expliquant, en montrant à quel point on n'est pas si loin fondamentalement de ce service public qui reposerait sur une forme de propriété qui ne dépend ni du marché, ni de l'État. Parce que, en définitive, dans cette histoire de réforme de la SNCF et du statut des cheminots, il ne s'agit pas de défendre uniquement le statut des cheminots, il s'agit d'universaliser le statut des cheminots. On se dit que les conditions de travail dans lesquelles les cheminots devraient pouvoir travailler comme ils le souhaitent, eh bien ces conditions-là, tout le monde devrait pouvoir en bénéficier. Voilà.
Et c'est vrai qu'en France, on reste quand même assez attaché à l'État. Mais ce que tu dis, c'est ça dépend qui dirige l'État. C'est-à-dire, on peut imaginer que si on a un jour des gouvernants de gauche... Ils mettent en œuvre via l'État des politiques publiques qui, au service du public, au service des plus pauvres. Mais bon, pour l'instant, c'est pas trop le cas. D'où l'idée de cette propriété collective. Et c'est exactement ce que nous a dit Ken Loach, qu'on a rencontré il y a pas longtemps. Ken Loach, le cinéaste britannique, qui milite pour la renationalisation du rail en Grande-Bretagne, puisque eux ont fait cette réforme du rail il y a déjà 20 ans. Donc, ils militent pour une renationalisation du rail. Mais nous a dit Ken Loach, avec une propriété collective et socialisée du rail, pour que ça soit pas justement une gestion par l'État, c'est exactement ce que tu dis, mais que ça soit une gestion par les usagers et par les citoyens.
Et par les travailleurs eux-mêmes. Parce que des expériences de gens avec des intentions de gauche qui ont pris le pouvoir, bon, on en a vécu un certain nombre depuis les dernières décennies, pas en France, mais à la fois en Europe, en Amérique latine, et à chaque fois, à quoi ils se sont opposés ? D'abord à des forces extérieures. En Europe, ça a été les institutions de Bruxelles, etc., qui a mis la Grèce à genoux. Mais aussi à leur propre administration. Et au sein de leur propre administration, à leurs administrations financières et économiques, qui constituaient en quelque sorte une espèce de cinquième colonne, refusant toute mise en œuvre du programme. Donc il y a un véritable problème, c'est que l'État s'est énormément renforcé ces dernières décennies. Et quand on dit l'État, c'est ce que le sociologue Pierre Bourdieu avait coutume de dire, on doit toujours penser que l'État a plusieurs facettes. Il avait coutume de dire il y a la main gauche de l'État, qui est grosso modo ces corps de la fonction publique qui fournissent les services publics, l'éducation, la santé, etc. Et la main droite de l'État, qui est à la fois ceux qui envoient des blindés pour démolir... des gens qui, à Notre-Dame-des-Landes, font des potagers bio, et en même temps, l'administration des finances, Bercy, qui est voilà, la citadelle de l'orthodoxie. Et cette main droite de l'État s'est considérablement renforcée. Et c'est le paradoxe, là, il y a des gens, François Denor notamment, a consacré un bouquin là-dessus, le néolibéralisme, ça n'est pas l'affaiblissement de l'État. C'est une grande erreur, je crois, qu'on a commise dans les années 90. Les hauts fonctionnaires du Trésor n'ont jamais été aussi puissants que depuis que règne le néolibéralisme qui est censé affaiblir l'État. C'est plus de moins droite destinée à casser la main gauche. C'est ça, le néolibéralisme. C'est l'État qui s'auto-dépossède de ses prérogatives sociales pour renforcer ses prérogatives régaliennes d'une part et gestionnaires de l'autre, pour que le type humain qui dirige les populations soit quelqu'un qui pense avec un tableur Excel et qui est dans le viseur de la réussite, modèle de patron de start-up. Et ce type humain, ben, c'est Emmanuel Macron. Il est inspecteur des finances, il a été ministre de l'économie, il connaît Bercy comme sa poche. C'est pas vraiment un hasard si à ce moment précis de l'histoire, il arrive à la position où il est.
Il était banquier chez Rothschild. Refonder plutôt que réformer, c'est ton papier, Pierre Rimbert, dans Le Monde diplomatique d'avril. Merci Pierre.
Merci.
Monsieur le ministre, c'est un désastre, le service public nous menace. Tous nos budgets ont besoin d'air, il y a trop de fonctionnaires. Il faut éviter le débat et faire attention aux médias. Moi j'ai trouvé la solution, la privatisation.